France Culture.
Esprit de justice qui va s'intéresser ce soir à la séparation des couples. Et il va se demander si la justice arrive à rétablir les inégalités de la séparation. Toutes les inégalités, celles engendrées par la séparation, mais aussi celles révélées par la séparation. Je voulais parler effectivement des inégalités latentes du couple, celles qui ne sont pas apparentes et qui vont être explicitées, comme le dit l'un de mes invités ce soir, qui vont être explicitées par l'acte de justice qui sépare effectivement la vie commune. On dénombre une moyenne de 425 000 séparations de couples en France chaque année, c'est-à-dire des divorces, des ruptures, de pacs ou d'unions libres même. Et dans toutes ces situations, la tâche de la justice est délicate parce que elle doit assurer non seulement l'égalité dans la rupture, mais aussi organiser la survie de la famille dont les parents sont séparés. Mission encore plus difficile parce que la séparation engendre bien sûr des disparités, mais qu'elle révèle les injustices latentes entre l'homme et la femme. Les femmes qui ont majoritairement la garde des enfants et qui ont le sentiment qu'elles doivent supporter les aléas de l'exercice du droit de visite des pères, sans compter que, en cas de violence conjugale, le droit de visite risque de prolonger cette relation de domination. L'implication des pères, autre motif d'irritation, c'est que l'implication des pères est valorisée alors que la charge affective et les soucis quotidiens de l'éducation des enfants par les mères semblent au contraire naturels, semblent inhérents à leur rôle. Pire, certains sont tentés de leur faire supporter la responsabilité de l'exclusion des pères inconséquents. La séparation d'un couple engendre aussi des inégalités sur le plan économique. On évalue que le niveau de vie des femmes chute en moyenne de 20% l'année d'après la rupture, tandis que celui des hommes reste stable. Par ailleurs, les écarts de patrimoine entre sexes se creusent, passant de 13% pour les couples à 32% pour les divorcés. Enfin, la séparation met en lumière des inégalités invisibles de la vie, de la famille et du couple, et notamment le travail d'entretien de la maison et des enfants, le plus souvent dévolu aux femmes. Comment faire alors, et ce sera l'émission de ce soir, comment faire pour que les mécanismes destinés à réduire les inégalités économiques soient efficaces, qu'elles n'arrivent pas au résultat contraire à renforcer ces inégalités. Pour étudier toutes ces questions et tenter d'y répondre, Esprit de Justice a réuni deux spécialistes qui rédigent alors chacun leur thèse, qui travaillent à leur thèse sur ce thème. Béatrice Bouillon, qui est sociologue, doctorante à l'Institut interdisciplinaire en sciences sociales, à l'IRISO, à l'Université de Paris-Dauphine, et Éloi Cottereau-Dibon, qui est économiste et sociologue, qui va nous parler beaucoup d'économie ce soir, et qui est lui aussi doctorant à l'IRISO, à l'Université de Paris-Dauphine, et aussi au CRESPA CSU de l'Université de Paris 8.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci Bonsoir. D'avoir répondu à mon invitation. À ma première question, Béatrice Bouillon, elle sera pour vous. Vous avez fait des enquêtes et je me trompe peut-être en disant que vous êtes partie du sentiment d'injustice des femmes. Sentiment d'injustice, et bien sûr, c'est l'entrée magistrale dans la question de la justice. Béatrice Bouillon.
Oui, tout à fait. Alors, donc les mères que j'ai rencontrées, donc qui sont des mères qui élèvent seules leurs enfants, ont un sentiment d'injustice assez fort par rapport à la prise en charge qui peut être faite par la justice et notamment les juges d'affaires familiales des conséquences de leur séparation.
Elles en veulent un peu aux juges.
Elles en veulent un peu aux juges.
Oui.
Ouais.
Oui.
Elles en veulent.
Et pour quelles raisons ?
Alors, elles en veulent un peu aux juges principalement parce que si elles ne critique pas plus que ça le fait qu'elles aient la charge principale des enfants, qu'au fond c'est quelque chose qui va plutôt de soi.
Souvent elles le souhaitent quand même, c'est quelque chose d'essentiel pour elles.
Bien sûr.
Et qui est source d'inégalité parce qu'elles y tiennent plus que le père.
Elles y tiennent beaucoup plus que le père. En revanche, là où elles sont plutôt déçues des juges, c'est dans le fait qu'elles ont le sentiment que les juges ne reconnaissent pas cette asymétrie. Ils ne reconnaissent pas le fait qu'elles passent la majeure partie du temps avec leurs enfants et ne reconnaissent pas non plus le fait qu'elles développent un travail actif pour favoriser l'implication des pères dans la vie des enfants après la séparation de couple, qui est un surtravail en fait qu'elle
qui est un surtravail et elle milite, j'allais dire, elle milite au-delà de leur propre intérêt. Elles font ça pour les enfants.
Exactement, elles font ça tout à fait pour les enfants. Et donc elles apprennent aussi à séparer leur ex-conjoint du père de leurs enfants, donc en essayant de mettre de côté ce qui était propre à leur relation, ce qui est pas du tout évident, notamment évidemment dans des cas de violence conjugale. Tout ça donc au nom de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Bien, et l'idée que leurs enfants en ont besoin.
Intérêt supérieur de l'enfant dont les juges n'ont pas nécessairement la même perception qu'elles.
Tout à fait, oui, oui.
Et donc, ça va être tout l'enjeu. Mais Éloi Cotron dit, bon, on négocie pas bien, on fait pas des bons arrangements lorsque l'une des parties tient essentiellement absolument à quelque chose et pas l'autre.
En tout cas, c'est sûr que pour par exemple l'exemple des pensions alimentaires,
oui,
on voit que ces pensions alimentaires peuvent être extrêmement sous-évaluées par rapport au coût réel de prise en charge des enfants. Et que typiquement, on peut avoir des pères qui veulent moins en donner et des mères qui veulent davantage de pensions. Et ça peut.
Mais à la décharge des juges, c'est pas du tout que je me solidarise avec mes collègues, oui. Mais c'est à la décharge des juges, ils doivent tenir compte des besoins des enfants et des possibilités du père, de ce qu'il peut, à hauteur de combien il peut contribuer.
Oui, mais ça, je pense qu'il y a un vrai travail aussi de déconstruction de tout un tas de prénotions à faire. Sur le fait que les pères ne seraient pas solvables ou qu'ils n'auraient pas les capacités financières. Et les inégalités dans le couple sont telles que je pense que les pères sont beaucoup plus solvables qu'on veut bien le croire. Et pour donner juste un chiffre, dans le couple, on voit que les femmes gagnent 42% de moins que leurs conjoints.
C'est à moitié moins quasiment.
Ouais. Voilà. Et ou inversement, on peut dire que les hommes gagnent 76% de plus que les mères. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur les représentations.
C'est ça. Alors on va déconstruire ces représentations. Et l'économiste, ce qui est bien, c'est qu'il aligne des chiffres. Alors que vous, Béatrice Bouillon, vous travaillez plus sur les représentations. Les représentations, c'est ça aussi qui irrite les mères, qu'elles ne se retrouvent pas et elles sont l'objet d'injonctions liées à des représentations sociales.
Oui, tout à fait. Et injonctions qui peuvent être contradictoires, du coup, dans certains cas, où en fait, on leur demande donc à la fois de continuer à garantir la présence, en fait, du père dans l'éducation de leurs enfants, mais qu'en fait, elles peuvent être confrontées à des difficultés dans la mise en œuvre de cette injonction-là, en fait, à laquelle elles sont par ailleurs attachées. C'est là-dessus que, pour le coup, elles rejoignent les juges aux affaires familiales. Elles sont convaincues, avec les juges, qu'il est important pour les enfants de continuer à avoir leur père.
Oui, c'est ça. Et le père qui n'est pas toujours très régulier.
Et ça, c'est le gros sujet, en effet. C'est-à-dire qu'une fois la séparation actée, un passage devant le juge éventuellement effectué, le temps passe. Et plus le temps passe, en général, plus les pères se désinvestissent de l'éducation quotidienne, en fait, de leurs enfants. Et ça, c'est une grosse difficulté à laquelle les mères sont confrontées, notamment pour mettre en œuvre ce qui est prévu dans les jugements par les juges aux affaires familiales.
Alors, vous dites qu'elles sont convaincues de la place nécessaire des pères, et je crois que c'est le bon sens. Elles craignent aussi d'être rendues coupables d'une séparation avec le père, en disant, mais elles accaparent les enfants, et c'est elles qui rentrent dans cette relation quasi fusionnelle avec les enfants. Béatrice Bouillon.
Tout à fait, ça c'est une prénotion, une représentation assez dominante qui circule beaucoup, en fait, celle des mères aliénantes, qui voudraient s'accaparer, comme vous dites, leurs enfants.
Je ne partage pas ce sentiment-là, mais c'est ce qu'on lit dans leurs témoignages.
Exactement, oui. Elles essayent vraiment de montrer que ça n'est pas le cas, que le père est le bienvenu qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir, ce que montrent par ailleurs plein d'autres études en réalité qui ont été faites sur les mères célibataires dans plein de contextes nationaux différents. Simplement, il y a cette question de... que faire quand le père se désinvestit? Est-ce qu'elles doivent continuer à faire ce surtravail? Est-ce que c'est encore légitime qu'en plus de l'éducation des enfants au quotidien, elles se chargent de ce travail-là en écrivant des messages, en acceptant en fait de changer leur week-end ou leurs vacances pour permettre qu'ils les voient quand même? Ou est-ce qu'elles arrêtent? Mais dans ce cas, est-ce qu'elles prennent le risque de se voir stigmatisées comme des mères aliénantes?
C'est ça. Alors ça, c'est un problème majeur. Il y a un autre problème qui est récurrent, mais qui est plus que récurrent, qui est également signifiant, Éloi Cotron-Dibon, c'est celui de la fiscalité. La fiscalité, c'est-à-dire que ce qui paraît incroyable, que le législateur n'ait pas encore remédié à cette disparité. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça fonctionne?
Et puis, il y a eu un petit changement par ailleurs, puisqu'effectivement, jusqu'à maintenant, les pensions alimentaires, les femmes devaient les déclarer comme revenus et du coup payer des impôts dessus, alors que les pères qui en versent une pouvaient la déduire de leur impôt sur leur impôt sur le revenu. Or là, en octobre 2024, il y a eu une loi en cours pour
enlever, mais qui n'a pas été votée.
Pas encore. En tout cas, par l'Assemblée nationale, il me semble que ça a été acté.
Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi?
Eh bien, cette loi, elle dit que du coup, ça enlève ce bénéfice pour les hommes, donc ils pourront plus déduire cette pension. Et puis les femmes auront pu à payer d'impôts dessus. Mais sur cette question de la fiscalité des pensions alimentaires, j'aimerais apporter deux autres éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est que seule la moitié des ménages paye l'impôt sur le revenu, et du coup qu'il y a un ménage sur deux qui n'est pas imposable, et les familles monoparentales étant plus précaires, elles sont moins nombreuses du coup à être concernées. Donc au final, la majorité des mères célibataires ne profitera pas de cette défiscalisation, même si c'est quelque chose de très important.
Oui.
Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est que à la CAF, en revanche,
l'allocation familiale.
Voilà. Oui. La pension est toujours comptabilisée dans les aides sociales. C'est-à-dire que, contrairement à l'impôt, la CAF exige encore que cette pension soit déclarée. Et par exemple, elle va être déduite du RSA et de la prime d'activité. Donc, pour une mère qui touche ses aides, eh bien, finalement, la pension, elle ne change rien à son niveau de vie. Donc, c'est comme si elle touchait une pension, mais une partie du RSA ou de la prime d'activité en échange qui diminue. Et du coup, cette réforme, elle est effectivement importante, mais les mères les plus pauvres n'y gagnent rien. Et du coup, il y a encore un travail à faire.
Alors, il y a un travail que vous préparez par vos études économiques, Éloi Cotron-Dibon, mais il y a aussi quelque chose, j'attire l'attention des auditeurs, sur la complexité des aides, cet infra-droit, on pourrait dire, qui est très important dans la vie des gens,
bien sûr.
Qui est un droit des allocations familiales, des prestations,
exactement,
qui change tout le temps, qui est très technique en réalité.
Qui est très technique, et d'ailleurs c'est tellement technique qu'il y a un non-recours parfois à certaines prestations. Typiquement, quand il n'y a pas de pension fixée par la justice familiale, il y a une allocation qui s'appelle l'allocation de soutien familial, qui est une substitution à cette pension. Et en fait, cette prestation, elle n'est pas automatique, il faut la demander. Et comme vous venez de le dire, c'est vrai qu'il y a c'est très technique, c'est complexe, on n'y comprend rien, c'est le foutoir. Et du coup, je pense qu'il y a un non-recours à cette prestation qui fait que, en fait, il y a beaucoup de femmes, de mères, qui se retrouvent dans une situation où non seulement elles n'ont pas de pension, mais elles n'ont pas d'ASF et elles n'ont pas n'ont pas d'aide.
C'est ça. Mais alors, vous qui travaillez sur les représentations, Béatrice Bouillon, sur les représentations, vous aussi, mais c'est des représentations économiques, c'est des projections économiques.
Tout ça est très lié.
Oui. Mais alors, sur les représentations, ça en dit long quand même sur ce qui agace les femmes. C'est cette différence de représentation de l'ancien régime qui est en train d'être changé. C'est-à-dire que pour le père, il était comme s'il était récompensé de faire quelque chose qui n'est rien d'autre que son devoir. Qui l'enrichissait, alors que pour les femmes, c'était une charge supplémentaire.
Oui, tout à fait. Alors, c'est révélateur plus généralement de l'action publique à destination des familles monoparentales, qui est en fait surtout préoccupée par, comme vous le disiez au tout début, la survie de la famille post-séparation. Oui. Et sauf qu'en fait, dans une société dans laquelle les mères continuent de prendre en charge la majorité du travail éducatif des enfants, y compris après les séparations, le vrai souci de l'action publique au sens général, dont fait partie la justice, c'est de s'assurer que les pères continuent de contribuer à cette éducation, donc continuent de contribuer financièrement et en pratique. Et donc, en effet, le sentiment d'injustice des mères, il apparaît aussi lorsqu'elles constatent que... quand elles ont oublié que l'horaire de sortie de l'école avait été avancé d'une demi-heure et que donc l'enfant doit attendre, elles sont très vite stigmatisées comme étant des mauvaises mères. Quand bien même elles prennent en charge tout à fait le reste du travail éducatif. Mais par contre, quand les pères respectent leur droit de visite et d'hébergement, celui qui a été fixé par les juges d'affaires familiales, là ce sont d'excellents pères. Donc en gros, en quelque sorte, il y a peu de raisons pour lesquelles on deviendrait mauvaise mère. Pour très peu, on devient une mauvaise mère. Et puis, pour très peu, on devient un très bon père aussi.
C'est ça. Il y a une opposition. Il y a une opposition, on pourrait dire, de manière un peu pédante, entre le symbolique et le pratique.
Quoi. Bien sûr. Ah bah oui. C'est complètement.
Oui. Ouais, c'est-à-dire que le père, il occupe une fonction symbolique et qu'on auréolé d'une sorte d'aura, de fonction supérieure, alors que la tâche pratique, c'est penser au quotidien, c'est de ne pas rater le changement d'heure de l'école, comme vous le rappelez, Béatrice Bouillon.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qui montre aussi les limites, en tout cas, l'idée qu'on a, c'est qu'on a une conception aujourd'hui très différente de la famille, du rôle des pères et des mères dans l'éducation des enfants, notamment par rapport à cette conception de l'Ancien Régime. Mais en fait, on en voit toujours l'héritage de ce point de vue-là.
Oui, l'héritage qui est parfois reformulé, d'ailleurs, par la théorie, les théories psychanalytiques, et finalement, une sorte de représentation sociale, peut-être juste, qui sait, Éloi Cottreau-Dibon, vous insistez sur une dimension qui est importante en matière économique. Il y avait un certain fonctionnement de la famille sur lequel on va revenir, mais la justice, elle légitime, elle apporte une autorité, une dimension d'autorité à un état de fait qui fige les choses.
Oui. C'est-à-dire que, il y a un côté, je trouve, où on a l'impression que le droit et la justice familiale sont censés corriger des inégalités, notamment celles qui sont engendrées par le couple. Et en fait, quand on regarde dans la pratique, souvent, le droit et la justice familiale ne font pas ça, mais vont renforcer des inégalités a posteriori.
C'est ça. Et parmi ces inégalités, Béatrice Bouillon, ça ressort de votre exemple que je trouve intéressant, c'est-à-dire que le père est tenté d'avoir des apparitions espacées, je sais pas comment dire, avec des trous, un père météorique un peu qui vient de sporadique, qui vient de temps en temps, alors que le propre du quotidien, c'est que ça supporte pas de rupture de charge.
Absolument. Et ça, c'est les mères qui s'en occupent, et ça revient aux mères. Et justement, en fait, un des éléments qui suscite leur mécontentement, je sais pas si du mécontentement ou beaucoup de déception parfois vis-à-vis des juges d'affaires familiales,
c'est donc que elles attendent beaucoup, elles attendaient beaucoup.
En fait, elles attendent que ça se soit reconnu, que cette asymétrie puisse être reconnue. Et parfois, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles envisagent le recours aux juges d'affaires familiales, par exemple, si elles n'y ont pas eu recours directement après la séparation, si elles n'étaient pas mariées, ou bien un nouveau recours aux juges d'affaires familiales quelques années après, comme un moyen d'obliger les pères à enfin respecter leur droit de visite et d'hébergement, ce qui se produit pas forcément.
Alors, il y a un dogme, une doxa, je sais pas comment l'appeler, aussi bien les députés que les juges, que les travailleurs sociaux, que les psys, c'est cette fameuse idée de coparentalité, qui, et par certains côtés, d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, l'un et l'autre, la coparentalité, est-ce si c'est pas un peu, il y a pas un peu de déni derrière cela, le déni de ce qui, il y a eu une séparation précisément, Éloi Cottreau-Dibon.
Oui, moi j'ai l'impression que cette coparentalité, mais enfin je pense que Béatrice en parlera sans doute mieux, mais il y a vraiment une injonction là-dedans.
Oui.
et qui du coup peut parfois être très forte et peut masquer tout ce qui peut y avoir de violence conjugale, par exemple. Enfin, je trouve qu'au nom de ça, ça peut. Enfin, moi, il y a cette formule qui m'a marqué d'une juge, à savoir peut-être que oui, il a été violent envers son épouse, mais ça peut quand même être un bon père. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quelle image ça donne aussi, cette idée qu'on peut être un bon père, mais violent envers son ex-épouse?
Comme si la violence sur la femme n'avait pas des répercussions psychologiques sur l'enfant.
Tout à fait.
C'est ça.
Ça m'intéresse. Enfin, je trouve c'est ça.
Coparentalité. Moi, il me semble que dans la coparentalité, je me demande s'il n'y a pas, de la part du législateur notamment, cette idée de forcer un peu une harmonie qui parfois n'existe pas du tout. Et au contraire, c'est les coups qui existent.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que la coparentalité dans le cadre de violences conjugales, c'est un vrai sujet qui peut être saisi, en fait, et ça, c'est aussi d'autres études qui l'ont montré par ailleurs, par les hommes violents pour continuer d'exercer ces violences.
Oui.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les inégalités de genre pendant la vie du couple et notamment lors de la séparation, en compagnie d'un sociologue et économiste, Éloi Cotron-Dibon, et une sociologue, Béatrice Bouillon. Béatrice Bouillon qui a choisi de nous faire entendre cet air d'Anne Sylvestre, Clémence en vacances. J'ai même pas besoin de demander pourquoi ce choix, Béatrice Bouillon.
Non, bah, j'espère que ça fait sens, mais en effet... Cette question du droit à arrêter se pose tout particulièrement pour les mères célibataires qui, comme on vient de l'expliquer, ben, ne peuvent pas tellement l'exercer en réalité, ce droit, et que donc c'est un vrai sujet de préoccupation pour elles et d'organisation concrète, c'est qu'elles n'ont pas le droit à une pause.
Alors vous avez parlé de mères célibataires, là c'est de mères séparées aussi, c'est oui, est un petit peu différent, parce que la mère célibataire, il y a parfois un choix délibéré des femmes de construire une famille sans les pères, peut-être pour éviter ces difficultés qui ont commencé, Éloi Cotron-Dibon, qui ont commencé bien avant la séparation, c'est ce sur quoi vous insistez.
Oui, bien sûr. À ce propos, moi, pour parler des inégalités économiques dans le couple, oui. J'aime bien utiliser le terme de dette masculine de la conjugalité, et j'aimerais bien, si c'est possible, prendre le temps d'expliquer ça en quatre étapes très succinctes, et puis je vous laisserai m'interrompre si vous avez des questions. Peut-être la première étape, c'est de voir le travail domestique comme un véritable travail, un travail gratuit. Ça, c'est un acquis des recherches féministes depuis 50 ans. Donc ce travail ménager et parental, donc ça va être tout s'occuper des enfants, le ménage, la vaisselle, écouter son conjoint se plaindre toute la journée.
Ah ça, écouter son conjoint se plaindre, c'est partagé par oui. l'homme et la femme. Enfin bon.
Approuvé. Espérons-le. Oui. mais en tout cas, il est majoritairement assumé par les femmes. Et la science économique est très utile à ce propos-là pour montrer que c'est un vrai travail qui n'est pas rémunéré et qui a une vraie valeur économique. Et pour ça, elle propose deux outils. Le premier, c'est de se poser la question, ok, si ce temps de travail ménager parental, il était consacré au travail rémunéré, bah combien est-ce que cette femme gagnerait? Donc par exemple, si une femme fait 2 heures de travail ménager parental par jour, que son salaire potentiel est de 15 heures, bah à la fin de la journée, sa perte potentielle c'est de 30 euros. Et ça en fait 30 euros, quand on met ça à la fin du mois, bah on est près de 900 euros.
Oui, et puis après 14 ans de
mariage, après 14 ans, c'est encore on arrive à des sommes qui peuvent être astronomiques. La deuxième manière, très vite fait, c'est de se poser la question, ok, si ces 2 heures de travail ménager et parental, elles étaient faites par, enfin, je les faisais faire par quelqu'un d'autre, si je demandais à quelqu'un de les faire à ma place.
L'heure de remplacement, oui.
Voilà, et bien, combien ça me coûterait? Bah, si pareil, c'est 15 euros de l'heure, bah, ça fait 30 euros, c'est des économies énormes pour la journée et 900 euros à la fin du mois. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, cette idée que le travail domestique a une vraie valeur économique. Le deuxième, on en a déjà un petit peu parlé, c'est cette idée de la division sexuée du travail au sein du couple, oui. Et à savoir que les femmes en couple hétérosexuel font 2 heures de travail ménager et parental de plus que les hommes. Et quand il y a des enfants, c'est encore plus, puisque elles en font 4h40 par jour, et hommes 2h20.
C'est ça, mais si on s'intéresse, Béatrice Bouillon, si on s'intéresse aux classes sociales, on a dit un mot tout à l'heure, si on s'intéresse aux classes sociales, on se rend compte que le travail ménager n'est pas réparti de manière identique selon les classes sociales.
Oui, non, tout à fait. Alors, c'est aussi, il y a une variable qui joue énormément, c'est aussi l'emploi des femmes, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont un emploi salarié le plus souvent, ou pas. Et en fait, là où on trouve par ailleurs les plus grosses inégalités, c'est dans les couples où les femmes sont dites inactives, qui en fait n'ont pas d'emploi rémunéré sur le marché du travail. Et c'est beaucoup plus souvent des femmes qui sont de classe populaire, peu diplômées, etc.
C'est ça. Continuez votre démonstration.
Mais oui. Donc voilà, donc on est dans les couples avec enfants, des écarts de 2h20 par jour. Donc à la semaine, ça fait entre 16 et 17 heures, l'équivalent d'un mi-temps en fait. Et pour les femmes, ce mi-temps, il est pas payé, il est pas rémunéré, et ce qui donne lieu à des inégalités de revenus qu'on a évoquées tout à l'heure, les femmes qui gagnent 42% de moins, les hommes 72% de plus. On arrive à la troisième étape qui est les séparations, qui sont un moment crucial, qui vont venir révéler ces inégalités et qui vont faire exploser ces inégalités. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'un an après une séparation, le niveau de vie des femmes dégringole entre 18 à 20%, alors que celui des hommes reste relativement stable, et que en termes de patrimoine, c'est quelque chose qui est aussi compliqué, puisque les écarts de patrimoine entre les sexes sont de 13% pour les couples mariés, alors que c'est 32% pour les divorcés.
Je vous interromps, vous alignez des chiffres, Éloi, contre Dibon, mais moi, il y a quelque chose, je me fais peut-être l'avocat du diable, c'est est-ce qu'on n'est pas dans des abstractions d'économistes? Peut-être que la femme fait ça par amour de ses enfants, peut-être même amour de son mari. Pour le dire autrement, et je crois que c'est une critique qui est adressée à cette approche, c'est-à-dire que là, on est en plein néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on retraduit toutes les activités, y compris celles qui semblent les plus empreintes de dons ou de valeurs extra-économiques, on les affecte d'un coefficient économique, Éloi Cottreau-Dibon.
Oui. Et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le plus souvent, et je pense que Béatrice pourrait le dire mieux que moi, mais elles font pas ça avec des calculs économiques compliqués. Mais il y a quand même quelque chose qui me semble discutable. C'est que, par exemple, la question, c'est de dire pourquoi est-ce que dire que ça a une valeur économique, ça enlèverait toute l'affection, tout le soin, tout l'amour. Par exemple, il y a plein d'enquêtes sur le travail rémunéré qui montrent que on fait pas du travail rémunéré que pour la valeur instrumentale. On fait pas ça que pour avoir du pognon. On fait ça aussi pour avoir une reconnaissance, pour participer à la collectivité.
Socialisation.
Parce qu'on a l'impression de contribuer au bien commun. Donc, pourquoi est-ce que quand on parle de travail rémunéré, on pourrait mettre inclure toutes ces différentes dimensions? Et pourquoi, dès qu'il s'agit du travail non rémunéré, qui est un travail fait par les femmes en majorité, alors là on dira non, il faut juste mettre l'affection et pas le
Béatrice Bouillon, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous choque? Ça, vous pensez que c'est une ça permettrait de dépasser certaines inégalités dans le couple, ou est-ce que vous pensez que une fois de plus, on est dans une discrimination genrée, c'est que le travail devrait, en plus d'être inégalitaire, devrait être gratuit, comme un don, pris comme un don.
Je dirais pas tout à fait ça, effectivement. Non, alors, effectivement, difficile de faire des prédictions sur ce que ça produirait directement, sur les inégalités de genre dans le couple et dans la conjugalité hétérosexuelle, mais effectivement, il me semble qu'il n'y a pas forcément d'incompatibilité à avoir entre le don, l'amour, la sentimentalité et sa traduction économique sous différentes formes, parce qu'en effet, il y a plein de domaines dans la vie sociale des gens qui ont à la fois une valeur économique et sentimentale.
Bien sûr, je pense au bénévolat, Éloi Cottreau dit. Bon, c'est-à-dire que maintenant, il y a une prise en compte dans la comptabilité des associations et dans leur bilan du bénévolat.
Oui, exactement. Et je pense que ça n'enlève pas le fait que ça peut être une activité très importante et socialement valorisée. C'est-à-dire qu'on peut à la fois dire que c'est une belle activité dans laquelle on peut s'épanouir, tout en disant que ça a une valeur économique réelle.
Le gros avantage que ça aurait, votre proposition de dette masculine de conjugalité, le gros intérêt, c'est un intérêt fonctionnel. Ça ne retire rien à la nature même de l'acte, quoi, de l'action. Oui. Mais là, on parle de séparation. Donc, on cherche à établir un équilibre entre les patrimoines. Et là, pour le coup, ça permettrait de voir autrement la liquidation de la communauté.
Oui, tout à fait. Et puis, en fait aussi, pour reprendre juste ma dernière étape, si vous permettez, c'est qu'on pourrait dire aussi que justement le droit, avec les pensions alimentaires et les prestations compensatoires, pourrait permettre d'assurer ça. Mais en fait, juste pour rappel, prestations compensatoires, c'est un dispositif qui est chargé de corriger les disparités économiques créées par la vie commune.
Et c'est bien ça, c'est plutôt ça qui serait visé, c'est plutôt une modification de la prestation compensatoire.
Oui, et des pensions alimentaires aussi, mais on peut voir les deux successivement. Et sauf qu'en fait, ces prestations compensatoires, elles sont d'un montant dérisoire. Il y a que 19% des divorces qui donnent lieu à cette prestation compensatoire. Donc 81% des divorces où il n'y a rien. Les couples non mariés n'y ont pas accès. Et il y a des études économiques qui ont montré que même quand elle est fixée, cette prestation compensatoire, ce n'est pas suffisant pour corriger les disparités économiques.
Comment vous expliquez ça en tant que sociologue et sociologue du divorce, Béatrice Bouillon? Pourquoi cette faiblesse de la prestation compensatoire, alors que finalement, pourquoi les juges manquent d'audace dans la décision sur les montants?
Alors ça, c'est une question à laquelle je vais peiner à répondre dans la mesure où j'ai enquêté auprès des mères célibataires.
En tout cas, les mères célibataires sont pas contentes des prestations compensatoires. Elles estiment généralement qu'elle n'a pas justement pris en compte toute leur contribution invisible au couple tant qu'il était uni.
Oui, tout à fait. Alors bon, donc en effet, comme le rappelait Éloi, ça reste quand même des dispositifs qui sont plutôt rares, en fait, à l'échelle des séparations en France.
Oui, c'est un peu surprenant, parce qu'on pourrait renverser le raisonnement. C'est-à-dire, elle devrait être quasiment dans toutes les séparations, vu que si on suit votre argumentation, Éloi Cottreau dit, bon, ça veut dire que dans toutes les couples, dans toutes les familles, oui. il y a eu une disparité, une inégalité plus ou moins grande entre la contribution aux charges de la famille et des deux époux.
Oui. Et pour répondre à la question de pourquoi les juges manquent d'audace, mais enfin en tout cas pourquoi ça fonctionne pas ces prestations, ben justement parce que dans les modes de calcul de ces prestations, il y a cette valeur économique du travail gratuit que je mentionnais en premier point, qui n'est jamais comptabilisée, qui n'est jamais prise en compte. Et du coup, moi je me suis dans mes recherches, je me suis intéressé à comparer le montant de ces compensations légales avec des voilà, on a des statistiques judiciaires, et de l'autre côté la valeur économique de ce travail. Et en fait, on a un écart qui est abyssal entre les deux. C'est colossal. Et c'est ça qui génère pour moi une dette masculine de la conjugalité qui n'est jamais compensée, qui n'est jamais payée et qui explique à la fois que les pères, que les hommes, pardon, s'en sortent aussi bien, et en même temps, qui explique l'appauvrissement.
Il y a des contre-exemples quand même. Peut-être quoi, c'est une question que je pose. Des contre-exemples, c'est-à-dire des familles dans lesquelles la contribution paternelle, je m'arrête sur le mot masculine. Il y a une dette de conjugalité, majoritairement masculine, mais pas nécessairement, pas existentiellement masculine, Béatrice Bouillon.
Alors, je suis désolée de vous décevoir, mais moi, je n'ai pas rencontré de situation.
Dans toutes vos enquêtes, vous n'avez pas rencontré de situation à laquelle le père avait, des places avaient été échangées en quelque sorte.
Non. Alors, évidemment, ça existe, comme tout existe socialement. Mais on sait quand même que ces situations-là sont souvent des situations, donc, non seulement rares, c'est-à-dire numériquement faibles, mais aussi des situations souvent particulières où, voilà, la mère a des problèmes de santé chroniques et forts, ou bien des situations de veuvage, en fait, où les mères sont décédées. Enfin, on sait que c'est quand même des histoires de vie majoritairement, je dirais, très particulières, très atypiques au sens statistique.
C'est ça. Alors, il y a une autre manière de produire des inégalités qui ne sont plus les revenus, mais qui sont dans le capital.
Tout à fait.
Dans le capital même. Parce que quand un homme travaille, je vais prendre un exemple que les auditeurs comprendront très facilement, c'est que quand dans un couple, la femme ne travaille pas au moins que l'homme, et que l'homme rapporte plus d'argent dans la famille, en cas d'investissement, ils achètent une maison, et la maison sera principalement à 70% achetée par l'homme sur le capital. Donc il y a une inégalité en capital aussi.
Oui, exactement. Et ces inégalités de capital, de patrimoine, donc ça correspond effectivement aux biens immobiliers, aux actifs financiers, aux entreprises et puis à l'épargne, ce qu'on a sur son compte épargne. Ces inégalités-là, en plus, non seulement elles sont fortes, mais elles augmentent, puisque les écarts de patrimoine entre femmes et hommes en 98, elles étaient de 9%. Et en 2015, elles ont pratiquement doublé, puisqu'elles sont à 16%.
Comment vous expliquez ça?
Eh bien, justement, par la fréquence accrue, enfin, il y a plein d'explications possibles, notamment il y a l'évolution des régimes matrimoniaux qui fait qu'il y a de plus en plus de contrats avec séparation de biens. Mmh. Du coup, comme les hommes sont davantage riches, ce recours à ce régime-là est de plus en plus fréquent. Mais il y a aussi ce dont on parle concrètement, enfin, ce dont je parlais, la dette masculine de la conjugalité, qui fait que tout cet investissement, ces sacrifices économiques effectués par les femmes sont jamais compensés et la justice ne compense pas ça et elle aggrave.
Quel sens elle l'aggrave ? Parce que c'est quand même une grosse pierre dans le jardin de la justice. Ça veut dire que la séparation non seulement n'arrive pas à organiser de manière plus ou moins égalitaire la continuation de la famille. En plus, elle aggrave cette inégalité antérieure.
Parce que, par exemple, elle l'aggrave dans le sens où, par exemple, quand on prend le taux de pauvreté des mères à la tête d'une famille monoparentale, il avoisine les 40%. Alors qu'en population générale, on est à 15%. Donc c'est 2 à 3 fois plus. Donc c'est une aggravation par rapport à ce qui se passait, par exemple, durant la vie commune.
Béatrice Bouillon, vous confirmez cette disparité et cette exposition à la pauvreté qui peut être extrêmement grave et qui peut même parfois être une cause pour ne pas divorcer, pour ne pas séparer, pour éviter cette chute dans la pauvreté.
Oui, bien sûr. Oui, c'est toutes les études et statistiques et qualitatives le montrent. Hein, l'appauvrissement des mères célibataires, c'est un gros sujet dont on parle aussi. Il faut le reconnaître. Alors après, Moi, donc, par définition, j'ai pas accédé aux mères qui se sont empêchées de se séparer pour ces raisons-là. Petit point positif quand même, moi j'ai aussi recueilli beaucoup de témoignages de mères qui sont capables de dire qu'elles ne regrettent pas en fait de s'être séparées pour autant, parce que, donc là on parle au niveau vraiment pauvreté monétaire, mais sur la question typiquement du travail domestique, bah, il y a une autre face. C'est l'allègement du quotidien. Mmh. Et ça, c'est une dimension assez importante pour les mères que j'ai rencontrées.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre face aussi? C'est que exercer cette tâche quotidienne, c'est aussi exercer un pouvoir sur la vie de la famille.
Exercer la tâche quotidienne auprès des enfants, vous voulez dire?
Oui. Des enfants, et puis c'est finalement le pilier de facto pratique de la famille, c'est la mère.
Si, tout à fait. Mais donc là, on revient à la question des juges aux affaires familiales et de cette question de coparentalité. Précisément, la coparentalité mise en œuvre dans la justice familiale fonctionne de sorte que l'autorité parentale conjointe entre père et mère et la fixation du droit de visite et d'hébergement limitent en pratique l'autonomie éducative des mères qui pourtant en ont la charge effective au quotidien.
Elle ne retrouve pas la plénitude finalement de la liberté qu'elle souhaitait.
Pas complètement.
Dis-moi, c'est vrai que tu me trompes depuis 6 mois. Avec ma meilleure amie, dis-moi, je parie que t'as bien ri de moi.
Ça, mon vieux, tu vas, ça, mon vieux, tu vas, ça, mon vieux, tu vas me payer. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer des froids.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur la séparation, le sentiment d'injustice qu'elle crée, les inégalités qu'elle révèle ou qu'elle engendre, en compagnie de Béatrice Bouillon, sociologue, et de Éloi Cottreau-Dibon, qui a choisi de nous faire entendre, et sociologue et économiste, qui a choisi de nous faire entendre cette chanson « Fallait pas commencer ». Et maintenant, tu vas payer, c'est bon, c'est pas...
fallait pas commencer, voilà. Oui, parce que si les hommes faisaient autant de travail gratuit que les femmes, ils n'auraient pas à verser de compensation. Fallait pas commencer, parce que si le travail domestique était rémunéré dès le départ, il n'y aurait pas besoin de le valoriser au moment des séparations. Et puis, il fallait pas commencer, parce que si les hommes se battaient réellement pour l'égalité économique, ils verraient bien que ces prestations ne sont pas des cadeaux, mais des dus face au travail colossal fourni par les femmes.
C'est important, vous dites, ce n'était pas des cadeaux, c'est un dû. Et il y a aussi un phénomène sur lequel vous insistez, et insistent d'ailleurs les mères séparées, c'est-à-dire elles ont l'impression qu'elles doivent mendier, qu'elles doivent demander, mais c'est un peu une sorte de mendicité des allocations, Béatrice Bouillon.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un sentiment assez fort et partagé, notamment les plus pauvres d'entre elles, en fait, c'est-à-dire celles qui dépendent le plus financièrement, soit du bon versement de la pension alimentaire, soit des prestations sociales. il est vrai que c'est toujours aux maires de faire les démarches et que c'est un des éléments les plus transversaux au système d'aide sociale. Et c'est quelque chose qu'elle regrette. Typiquement, moi, au moment où je faisais mon enquête, il y avait eu un allègement des procédures pour demander le recouvrement des pensions alimentaires qui n'étaient pas versées. Et puis, j'ai donc une mère qui avec qui je m'entretiens, qui me dit « Mais oui, mais en fait, parmi les pièces justificatives que je dois joindre à mon dossier, il faut que je fournisse le RIB de mon ex-conjoint, le relevé d'identité bancaire. »
Oui, mais elle l'a pas.
Elle l'a pas. Et ben voilà, du coup, retour à la case départ, il fallait nouveau essayer de saisir le juge, comme c'était le cas avant, enfin en tout cas...
Pour obtenir injonction de communication de pièces, etc.
Voilà,
oui, oui, mais ça veut dire que ça veut dire effectivement que une sorte d'approche abstraite, et j'ai été impressionné en préparant cette émission de voir la prévalence, Béatrice Bouillon, la prévalence des violences conjugales quand même. Hein. Bien sûr, je suis très au courant de son importance, mais à ce point-là, ça concerne un grand nombre de séparations.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un gros décalage dans les chiffres entre le pourcentage de femmes qui ont été victimes de violences conjugales dans leur vie tout court et le pourcentage de mères séparées, en particulier dans l'année, qui ont été victimes de violences conjugales. Donc, c'est peu près...
Ah oui, donc au moment de la séparation.
Ah oui. Ou juste avant. À peu près 5% des femmes adultes déclarent avoir connu des violences conjugales dans le cadre d'une relation suivie, disons. Évidemment, on peut avoir un regard critique aussi sur ces chiffres en se disant qu'il peut y avoir des effets de sous-déclaration, etc. Mais enfin, ça, c'est la base. Dans la même enquête...
C'est un peu humiliant d'avoir à déclarer ça.
Ça peut être difficile. Et puis, ça l'est peut-être d'autant plus qu'on vit toujours avec le conjoint en question, par exemple. On passe à 17% parmi les femmes séparées qui ont des enfants. Donc 17% des femmes séparées qui ont des enfants déclarent avoir connu des violences conjugales au cours de leur vie. Et on est à 35% des femmes séparées avec des enfants qui se sont séparées dans l'année qui précède l'enquête. Donc en fait, il y a une vraie surreprésentation et peut-être plus grande facilité de déclaration des violences conjugales chez elles.
Est-ce que finalement, c'est suffisamment pris en considération dans cette fameuse coparentalité, Béatrice Bouillon, la prévalence des violences? Est-ce qu'il n'y a pas une catégorie, quelque chose à penser pour installer une réalité qui est malheureusement une réalité structurante de cette question et pas uniquement une exception?
C'est pas du tout une exception. On sait que c'est des phénomènes qui sont structurels et très répandus. Et en effet, la coparentalité post-séparation est un principe qui reste supérieur chez, par exemple, les juges d'affaires familiales, mais pas que, chez un certain nombre de travailleuses sociales, par exemple, à la demande et aux besoins de protection des femmes vis-à-vis des violences conjugales. Et c'est un sous-sujet et parfois un hors-sujet en réalité de la fixation des modalités de résidence des enfants.
Alors qu'en fait, il est déterminant.
Bien sûr, il est déterminant. Oui. Alors, on commence à avoir émergé en tout cas des réflexions, y compris parmi les juristes, sur le fait que c'est peut-être pas un hors-sujet, y compris pour l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire y compris si on ne s'intéresse pas à la mère, mais aux enfants qui en sont témoins quand même.
Oui, c'est ça. Et donc, à ne plus faire ce que vous dénonciez sur c'est un mauvais mari, mais c'est un bon père. C'est un mari violent, mais c'est un bon père.
Oui.
C'est ça.
Tout à fait.
Et alors, Éloi Cottreau-Dibon, il y a une expression que vous employez souvent, que je trouve particulièrement appropriée, je voudrais que vous la développiez, vous dites, mais il y a dans cette séparation un cache-sexe, c'est-à-dire que on ne tient pas compte d'une réalité qui est évidente, oui, mais qu'on ne veut pas voir.
Oui, je trouve que la question du cache-sexe, elle est très appropriée pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est de l'amour, c'est de l'affection, ça peut pas être, ça doit être dissocié de l'économie, et quelque part mettre de l'économie là-dedans, c'est pervertir
Il y a beaucoup de sociologues qui sont opposés quand même à ce que vous proposez cette prise en compte du travail, cette dette masculine de la conjugalité.
Oui, il y a un gros débat là-dessus, mais je pense qu'il du coup a un peu invisibilisé cette question. Et moi, je pense qu'on peut tenir les deux ensemble.
C'est ça. Voilà. Les deux ensemble pour donner une plus grande réalité économique à la séparation.
Oui, et pour qu'il y ait réparation et justice.
C'est ça. Alors, ce qui est bien sûr important, Béatrice Bouillon, dans la perspective, vous avez travaillé, vous travaillez toujours en tant que sociologue sur l'enquête. Quelles seraient pour vous les directions, les pistes de réflexion? On a parlé des violences conjugales, des violences contre les femmes, en réalité, beaucoup plus que des violences conjugales, qui devraient être plus prises en compte à tous les moments de la séparation, pas uniquement en termes de protection physique première.
Oui, tout à fait.
Quelles sont les pistes de réflexion qu'il faudrait pour assurer une plus grande égalité, pour que la justice remplisse son rôle d'une justice qui cherche à obtenir une égalité non seulement théorique, mais une égalité pratique entre les époux?
Oui. Ben alors, si on considère que les inégalités de genre qui existent dans l'exercice de la parentalité avant et après séparation sont en défaveur des femmes, il me semble qu'il y a peut-être une ligne directrice centrale et indispensable, c'est de cesser de partir de ce qu'on devrait faire pour les hommes, pour favoriser leur investissement, pour qu'ils conservent l'autorité parentale, etc. Et qu'à l'inverse, on parte des réalités concrètes et des expériences quotidiennes des femmes. Et là, on change complètement la perspective et le regard sur ce qu'il y a à faire. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue de la justice?
Est-ce que vous ne croyez pas, alors c'est une question peut-être un peu abrupte, mais finalement, ce que n'aiment pas les femmes, c'est qu'on naturalise leur rôle. On dit, mais elles n'ont qu'un mérite, c'est leur rôle qui est quasi désigné par la nature qu'elles exercent. Et y a aussi réciproquement une fonction symbolique. On en a parlé, on a dit un mot tout à l'heure, elle est quand même extrêmement présente dans les discours et elle recouvre peut-être une certaine réalité, Béatrice Bouillon.
Je pense que certaines, et il ne faut pas non plus trop homogénéiser, même si on a tendance à le faire, les familles monoparentales, les mères isolées, etc. Je pense qu'il y en a certaines qui, en effet, ressentent une forte injustice face à la naturalisation de leur disponibilité, de leurs compétences. C'est vraiment de leur disponibilité maternelle, voire de leur mise à disposition des enfants. Là où elles ressentent le plus fortement de l'injustice, ou en tout cas là où elles la verbalisent le plus quand moi je fais l'enquête, c'est dans le fait que ça mène à une asymétrie qui n'est pas reconnue. Et c'est la non-reconnaissance de l'asymétrie,
c'est ça.
Plutôt que le fait que cette naturalisation existe.
C'est ça. La vraie chose. Donc on tourne toujours autour de mêmes difficultés. Il faudrait que la justice prenne plus en compte, alors non plus sur le plan économique, mais sur le plan social, qu'elle valorise le rôle des mères et que, à hauteur de ce qu'elle valorise le rôle des pères qui exercent leur responsabilité.
Et il y a aussi un intérêt, typiquement, dans cette réflexion-là, à ne pas opposer les choses et à pas trop les séparer, c'est-à-dire l'aspect économique, l'aspect pratique quotidien, et l'aspect symbolique, tout est lié.
Oui, tout est lié. Et la mère aussi exerce un rôle symbolique.
Bien sûr que la mère exerce un rôle symbolique, évidemment.
Éloi Cottreau, dis-moi, est-ce qu'il y a des pays où ce que vous proposez, ce qu'en fait hurler certains, est-ce qu'il y a des pays où ça existe, cette dette masculine de conjugalité, comme vous l'appelez?
Eh bien, ou en tout cas des mécanismes juridiques qui essayent de l'endiguer, même s'ils sont pas encore suffisants. Oui, au Portugal, il y a une décision en 2019 qui a condamné un ex-conjoint, donc qui était même pas marié, à verser 60 000 euros environ à son ex-conjointe pour dédommagement de ce travail domestique qui avait contribué à l'enrichissement du foyer, selon la décision. Et il y a la Chine aussi, qui a proposé une loi en 2021, qui, en fait, voit le travail domestique comme un actif économique et qui, peut conduire à ce que l'ex-époux fasse un dédommagement à la fin du mariage. Mais encore faut-il que ces dédommagements soient bien proportionnels à la valeur économique colossale du travail fourni par des femmes.
Alors vous avez employé l'adjectif colossal à plusieurs reprises,
oui.
parlant du travail, surtout pour des couples qui se séparent tardivement,
oui.
qui se séparent notamment à un moment où le travail est moins valorisé parce que les enfants oui. sont partis, qui était d'ailleurs une caractéristique du divorce à la française il y a quelques années. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que cette idée progresse dans les associations féministes de lutte, de combat pour un divorce plus juste? Alors je me retourne d'abord vers Anne Bouillot. Est-ce que cette idée de valoriser économiquement le travail des femmes est une idée qui s'installe progressivement ou pas du tout?
C'est une proposition qui divise en partie les mouvements féministes et les groupes féministes. En revanche, ce qui est commun, il me semble quand même au mouvement féministe dans sa majorité, c'est l'appel à une reconnaissance du caractère colossal
oui, c'est
de
ça.
L'investissement
c'est ça.
Des femmes et des mères.
Vous avez prononcé le mot reconnaissance à plusieurs reprises et il me semble que c'est tout à fait à bon droit parce que cela reste une fonction de la justice, cette fonction de reconnaissance. C'est pas uniquement un acte instrumental, on pourrait dire, où il faut régler la dissolution de gens qui ont vécu ensemble, qui était une tendance ces dernières années, ce qu'elle faisait d'ailleurs pas nécessairement très bien, mais on se limitait à cela. Et ce sur quoi vous insistez, Béatrice Bouillon, c'est cette dimension de reconnaissance qui est attendue de la justice. C'est pas le seul exemple d'ailleurs.
C'est exactement ce qu'elles attendent de la justice, et c'est d'ailleurs ce qu'elles attendent en priorité. C'est-à-dire que, contrairement peut-être à l'image qu'on peut avoir parfois d'ex-époux, épouses qui viennent régler leur compte devant le juge, en réalité, moi, les mères que je vois veulent d'abord une reconnaissance qui acte les choses étant leur très grand investissement quotidien, pratique, invisible auprès de leurs enfants, et le faible investissement de leurs ex-conjoints. Et c'est d'abord et avant tout cette reconnaissance qu'elles attendent, en fait, dans leur majorité, quand elles se présentent devant un ou une juge aux affaires familiales.
Une reconnaissance, et là, ça permettrait de dépasser ce caractère strictement comptable de l'économie pour montrer que derrière ce que vous proposez, Éloi Cottreau-Dibon, il y a aussi une fonction de reconnaissance qui peut être à la fois être symbolique et être économique, être symbolique.
Et oui, bah c'est vrai que nos chemins se croisent finalement dans nos interventions. Et effectivement, je rejoins Béatrice en disant que bah, les deux sont toujours très fortement interconnectés.
Et qu'est-ce qui s'y oppose? Quels sont les obstacles que vous rencontrez, Éloi Cottreau-Dibon, dans la proposition de prendre en considération cette dette de la monnayée qui changerait considérablement les chiffres, les séparations?
Je ne sais pas, mais je lance un appel au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui se prétend féministe. Bah, s'il l'est vraiment, qu'il le montre par les mots.
Et par le chiffre, surtout.
Et je prête ma force de travail aux besoins pour proposer un nouveau barème de pension alimentaire qui prenne en compte cette valeur et pour créer un barème de prestations compensatoires pour que cette prestation compensatoire soit ouverte à toutes et tous et que ce soit plus réservé à une minorité.
Et comment vous expliquez d'ailleurs à ce propos, c'est que là on a parlé que finalement d'une petite proportion des couples, ceux qui, dans lesquels il y a un règlement financier, c'est pas le cas de tous les couples, Béatrice Bouillon?
C'est même minoritaire.
C'est même minoritaire, c'est ça.
En réalité, dans la majorité des cas, il n'y a pas de prestation compensatoire. Dans une part importante des cas aussi, il n'y a pas de pension alimentaire qui est fixée. Et ça, bah, c'est aussi le résultat des inégalités économiques.
C'est intéressant, parce que sur le temps long, Béatrice Bouillon, sur le temps long, finalement, on a assisté ces dernières décennies, ce temps long, disons, à les 60-70 ans, on a assisté à la disparition de la faute et à une sorte d'objectivation, de donner acte, d'une séparation, dans laquelle on attendait essentiellement de la justice qu'elle ne prenne pas de position morale ni de reconnaissance. On ne chasse la faute. Il y a un divorce qui est un acte de séparation. Et ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'il y a une attente qui est pour tous les couples, pas uniquement les couples qui ont un patrimoine à diviser.
Absolument. C'est pas du tout réservé aux couples qui ont un patrimoine à diviser. Mais c'est pas non plus une question de faute, c'est une question de reconnaissance de l'investissement.
C'est donc une évolution profonde de l'institution du divorce lui-même. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette discussion ce soir sur toutes ces dimensions économiques et autres de la séparation. À la technique, il y avait Jean-Guilain Meige, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Gédé. Une émission d'Antoine Garapon.